Hey, salut les amis! Bienvenue sur Paris au Clock, le podcast qui vous parle de culture française en français facile. Moi, c'est Aurélie, je suis professeure de français à Paris et vous pouvez me retrouver sur mon site parisauclock.com ou sur mon compte Instagram. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon podcast. Ici, nous parlons principalement de sujets liés à la culture française, mais vous allez voir, aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu différent. J'ai en effet un invité très spécial avec moi aujourd'hui, Henrik, un de mes élèves. Il va nous parler de son apprentissage du français et il va partager avec nous quelques clés de son succès. Allez, c'est parti! Salut Henrik!
Salut Aurélie, ça va?
Ça va et toi?
Oui, ça va bien, merci.
Je suis super contente de t'accueillir sur ce premier podcast interview. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, tu vas nous parler de ton expérience avec le français. Donc, le français, ça n'est pas ta langue maternelle. Tu vas nous dire tout à l'heure d'où tu viens. C'est une langue que tu parles couramment aujourd'hui, avec beaucoup d'aisance. Et tu vas justement partager avec nous quelques clés de ton succès. Donc ça veut dire comment tu as fait pour apprendre le français, comment tu as fait pour réussir à le parler aujourd'hui couramment. Et je suis sûre que ton expérience va être très utile pour les personnes qui nous écoutent, qui apprennent le français et qui ont peut-être quelques difficultés en ce moment. On va leur donner quelques idées pour rester motivés et ne pas se décourager. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Oui. Je m'appelle Henrik Cavalli, ou Henri Cavallin, peut-être on peut dire en français. J'ai 48 ans. J'habite à Stockholm, en Suède. Je travaille dans l'informatique chez ma propre entreprise. Je suis le seul employé, donc on peut dire que je suis freelance. Part de l'apprentissage de français, j'ai un autre loisir, on peut dire, que j'ai un bateau à voile, un voilier, et que je partage avec mon père. Je trouve ça vraiment, ça me plaît vraiment de travailler un peu sur ce bateau avec mon père et aussi faire des petits tours dans l'archipel de Stockholm. Ça me plaît vraiment.
Waouh, ça doit être très sympa en été.
Oui, oui, c'est super. L'archipel de Stockholm, c'est presque, je crois, il y a des milliers d'îles. C'est vraiment sympa, je pense.
Je me souviens, moi, je suis allée à Stockholm il y a très longtemps pour un petit voyage en été. Et je me souviens justement de toutes ces îles. Je me souviens qu'il y a des îles qui sont très vertes, avec des grands parcs. Et j'avais trouvé que Stockholm était vraiment une ville très agréable.
Oui, dans l'été, Stockholm, c'est parfait. Je crois que pendant l'hiver, en Suède, c'est un peu gris, un peu triste, mais le soleil se couche vraiment tôt. Mais l'été en Suède et à Stockholm, et dans l'archipel de Stockholm, c'est top.
Alors, parlons maintenant de ton apprentissage du français. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi d'apprendre le français, depuis quand tu l'apprends et comment ça s'est passé pour toi au début?
Premièrement, j'ai étudié le français à l'école, mais ça fait longtemps maintenant. Donc, il y a maintenant 3 ans que j'ai commencé à reprendre le français. Et à ce temps-là, j'ai presque tout oublié. Et je ne connais presque, des mots, des phrases vraiment simples, mais je crois que je ne peux pas vraiment comprendre les gens qu'ils parlent, des choses comme ça. Mais maintenant, quand j'ai commencé à reprendre le français, c'était comme un défi. J'ai utilisé beaucoup des ressources en ligne pour l'apprentissage. Et je vais parler un peu plus de ces ressources. Je trouvais que apprendre une langue étrangère, c'est vraiment plus simple aujourd'hui qu'avant, je crois. Parce que quand j'étais à l'école, c'était vraiment difficile d'apprendre une autre langue. Mais aujourd'hui, il y a plein de ressources, je crois. Donc, je pense que c'est vraiment, l'apprentissage, c'est vraiment aussi intéressant, comment ça marche, comment on apprend, en fait. Je trouve ça aussi vraiment intéressant, comment ça marche. Donc, c'était seulement que pourquoi j'ai commencé à reprendre le français, c'est une raison là, c'est parce que c'était comme un défi, mais c'est aussi parce que j'aime la France, j'aime la culture française, j'ai beaucoup voyagé en France, j'ai des endroits en France que j'aime vraiment, comme Paris par exemple, mais aussi le sud de la France, comme Antibes, la région Provence, j'aime ça, cette région aussi vraiment.
D'accord, ok, donc tu avais déjà appris le français à l'école, mais tu avais l'impression peut-être d'avoir tout oublié, ou
oui,
en tout
oui.
cas que tu avais oublié beaucoup de choses, et que c'était difficile pour toi de communiquer avec les gens. Et donc, comme tu es quelqu'un qui aime bien les défis, tu t'es lancé dans ce défi de te remettre au français. Et d'autant plus que tu as cet amour pour la France et le français. Donc j'imagine que pour toi qui voyages souvent en France, c'était important de pouvoir parler français et de pouvoir communiquer et avoir des expériences plus intéressantes avec les locaux.
Oui, bien sûr.
Voilà, donc peut-être que tu nous parleras un peu plus tout à l'heure d'Antibes et de cette région que tu aimes beaucoup. Mais est-ce que tu pourrais nous parler maintenant un peu plus de tes méthodes? Tu nous parlais de quelques ressources que tu as trouvées en ligne. Tu nous disais qu'aujourd'hui, c'est plus facile qu'avant de trouver des ressources intéressantes sur Internet. Donc, quand tu as pris la décision de te remettre au français, concrètement, qu'est-ce que tu as fait?
Je crois que, en fait, j'ai commencé avec cette application Duolingo. Je trouve que c'est une très bonne application parce que, dans mon avis, c'est toujours vraiment important d'apprendre le vocabulaire et apprendre beaucoup de mots. Ça, c'est toujours très, très important. Mais aussi de mettre les mots en contexte. Et je pense que Duolingo, ça, là, il y a un mélange avec apprendre les mots et aussi, on a vraiment là, on a trouvé des moyens pour comment les étudiants vont mettre les mots en contexte. Je trouve ça super, mais probablement le Duolingo, je crois que c'est vraiment plus utile pour peut-être les débutants. Les personnes qui sont peut-être sur un niveau A1, A2 peut-être, parce que après ça, je pense que il faut utiliser des autres ressources. Donc, mais en ce temps-là, il y a 3 ans, j'ai commencé avec ce Duolingo et un autre site. C'était un podcast qui s'appelle Coffee Break French. Là aussi, il y a beaucoup de très bon podcast pour l'apprentissage de français. C'est aussi un site ou un podcast que je peux vraiment recommander pour des débutants, en fait. Et oui, mais j'ai aussi cherché beaucoup des autres ressources comme Netflix, par exemple, YouTube, des autres ressources. Mais je voudrais aussi dire que dans un niveau intermédiaire, il y a des autres ressources que je peux vraiment recommander aussi. Quand tu arrives dans un niveau peut-être B2, B1, quelque chose comme ça. Je pense que là, il y a un site qui s'appelle Lingui. Est-ce que peut-être tu peux le...
Oui, je mettrai tous les noms des ressources dont tu parles sur mon site pour que les gens puissent les retrouver.
Parfait, parce que ça, c'est un site créé par un homme qui, je crois, je ne sais pas si c'est créé par lui, mais c'est vraiment les idées d'un homme, d'un monsieur qui s'appelle Stephen Kaufman. Il est vraiment connu parmi les polyglottes, on peut dire. Ces idées, je crois que on a utilisé pour créer ce site parce que c'est vraiment concentré sur apprendre le vocabulaire aussi. Il y a beaucoup de textes là. On peut télécharger ses propres matériels sur ce site pour lire. On peut avoir des traductions directement avec un clic sur un mot. Il y a aussi des fonctions pour remplir des mots qui on a déjà compris. Et je trouve ce site vraiment efficace pour apprendre le vocabulaire. Un autre site dont je veux vraiment parler aussi, c'est le podcast d'une personne qui s'appelle Hugo. Je crois que son site ou ses podcasts il s'appelle Inner French. Pour les intermédiaires, c'est aussi un site des podcasts qui sont vraiment très très bien, très intéressants.
Ok, super. Donc pour résumer un peu, on a parlé de Duolingo, qui est très bien pour les débutants ou pour se remettre au français. Tu nous as parlé aussi de ressources comme YouTube ou Netflix, sur lesquelles on peut trouver beaucoup de ressources en français. Tu nous as parlé de Lingui, c'est ce site où tu peux trouver des textes avec beaucoup de fonctionnalités pour chercher des mots. Tu peux avoir la traduction en anglais ou bien la définition du mot. C'est très pratique pour l'apprentissage du vocabulaire en contexte. Ouais. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le contexte, c'est vraiment très important. Ça permet de bien comprendre la construction d'un verbe, par exemple, de bien voir avec quelle préposition on doit l'utiliser. Donc, c'est vraiment super. Et tu nous as parlé aussi d'un super podcast, Inner French, un podcast qui est vraiment très bien fait pour les personnes qui ont un niveau intermédiaire et qui souhaitent progresser. Ok, super. Alors, maintenant, j'aimerais parler un peu avec toi du fameux plateau intermédiaire et surtout de comment faire pour le dépasser. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce plateau intermédiaire ? Quand on apprend une langue, au début, on a l'impression de pouvoir progresser assez rapidement. On apprend du vocabulaire, on peut rapidement commencer à faire des phrases simples. Et puis, au bout d'un moment, on a l'impression de ne plus vraiment progresser, ou en tout cas plus lentement. On a l'impression d'avoir atteint un certain niveau qu'on n'arrive pas à dépasser. On a encore des difficultés à parler, on n'est pas vraiment à l'aise pour s'exprimer en français. Alors toi justement, comment est-ce que tu as fait pour dépasser ce plateau ? Est-ce que tu t'en souviens ? Et est-ce que tu te souviens comment tu t'es sentie à ce moment-là ?
Je ne suis pas sûr que j'ai vraiment dépassé le niveau intermédiaire.
Si, bien sûr, bien sûr que oui.
C'est gentil, mais parce que moi, tu vois, ma langue maternelle, c'est le suédois. Une autre langue que je parle, c'est l'anglais. Il faut dire que en anglais, je peux presque toujours dire ce que je veux dire. Parfois, peut-être, je ne connais pas un mot, mais en anglais, je peux presque toujours trouver des autres moyens pour dire la même chose. Mais quand je parle le français, parfois, je me bloque, parfois, c'est un peu difficile de peut-être expliquer des choses un peu plus complexes, je pense, mais bah, Mais mon but, c'est vraiment parler le français dans le même niveau que je parle l'anglais. Je ne crois pas que j'ai vraiment encore réussi, mais moi, je trouve aussi que le chemin est vraiment plaisant. Le chemin, c'est vraiment intéressant aussi. Donc, c'est pas grave si je n'arrive pas sur ce niveau que j'ai arrivé sur avec l'anglais, mais maintenant, je vais aussi donner la réponse pour ton question là, en fait. Comment faire pour dépasser le niveau intermédiaire? Je pense que, premièrement, je pense que c'est important de prendre plaisir dans l'apprentissage, parce que sinon, si tu ne trouves pas ça agréable, ça va jamais marcher, je pense, parce que ça, je crois que c'est vraiment important de trouver des moyens pour l'apprentissage qui sont agréables. Et une autre question là que tu m'as demandé, c'était si j'ai trouvé un moment où j'ai eu cette expérience que maintenant ça marche. Je me souviens en fait un moment quand j'ai réussi à lire mon premier livre en français. Ça c'était une fierté, ou c'était vraiment plaisant. Ça arrivait un peu comme hasard, parce que j'ai essayé de télécharger un livre sur ce site Lingu, et ça n'a pas marché. Et j'ai commencé à le lire et je me suis rendu compte que ça marche, je peux lire. Et c'est vraiment agréable, je pense.
Et c'était quoi comme livre? Tu te souviens?
Je crois que c'était un livre par Musso. Je crois que c'était La jeune fille et la nuit.
Ouais. Effectivement, Musso, c'est un auteur que je conseille souvent à mes élèves. C'est un auteur qui a beaucoup de succès en France. Dès qu'il publie un nouveau livre, c'est tout de suite un best-seller. Tout le monde adore Musso. Les grands critiques de la littérature trouvent parfois que son style est un peu trop simple, mais tant mieux, en fait. Pour les gens qui apprennent le français, c'est plus facile. Donc, Guillaume Musso, c'est clairement un auteur que je conseille. Et donc, c'est avec cet auteur que tu as eu ce moment waouh, ce moment de révélation, où tu t'es dit, ça y est, je suis capable de lire et de comprendre des livres en français en entier, sans l'aide de cette application dont tu nous as parlé tout à l'heure. Ok, hyper intéressant. Un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est cette peur de parler que ressentent beaucoup de personnes qui apprennent une langue étrangère, et peut-être en particulier avec le français. Est-ce que toi aussi, tu as ressenti cette peur de parler au début, cette peur de t'adresser à des Français peut-être quand tu étais en voyage en France?
Pour moi, c'était pas vraiment un problème, non. J'ai entendu parler de cette peur, mais pour moi, c'était pas vraiment une difficulté. Comme tout le monde dit, c'est toujours un peu énervant ou un peu stressant quand on parle avec un Français ou une Française et il ou elle répond en anglais. C'est un truc que tout le monde dit, mais ça arrive pour moi aussi, et en particulier quand je suis dans le sud de la France où il y a beaucoup de touristes. Mais je crois que c'est pas grave.
Et qu'est-ce que tu fais justement quand ils te répondent
peut-être
en anglais?
J'essaie une autre fois de parler le français, mais après je change, parce que ça ne sert à rien d'avoir des batailles comme ça. C'est parce qu'ils veulent communiquer, quoi. C'est la raison. Donc, c'est pour être gentil. C'est pas grave si ça arrive, je pense.
Oui, ça veut pas dire que tu parles mal français, ça veut juste dire qu'ils sont peut-être pressés, ils veulent peut-être vite terminer la communication.
Ou ils justement essayent de faire comprendre qu'ils aussi parlent l'anglais ou quelque chose comme ça.
Oui, pour t'aider si jamais tu avais envie de parler en anglais, je comprends. Ok, super. Donc effectivement, parler c'est très important, le plus tôt possible. Essayer de parler, de ne pas avoir peur. Et je sais que c'est difficile, au début on a peur. Il y a beaucoup de personnes qui attendent de pouvoir faire des phrases parfaites pour commencer à parler. Mais c'est dommage en fait, parce que ce moment ne va peut-être jamais arriver si on n'essaie pas. Donc effectivement, au début, on fait des erreurs, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'essayer. Et plus on pratique, et plus c'est facile.
Je crois que quand on a arrivé sur cet niveau intermédiaire, c'est vraiment important de parler. Je pense que là, il y a beaucoup de ressources aussi, comme Italki, je pense, et des autres ressources pour trouver des professeurs professionnels ou peut-être une personne avec lequel tu peux faire un échange de langue. Je pense que ça, c'est super important aussi quand tu es arrivé sur ce niveau intermédiaire.
C'est clair. Donc, parler le plus possible, ne pas avoir peur. Et puis, si on se trompe, c'est pas grave. Souvent, c'est justement quand on fait une erreur et que quelqu'un nous corrige, qu'on va avoir un déclic, qu'on va vraiment comprendre une erreur de prononciation, par exemple, ou une erreur qu'on fait souvent. Moi, ça m'est arrivé souvent dans mon apprentissage de l'allemand ou de l'espagnol de dire quelque chose. Et là, tout le monde rigole. Ou alors, on me dit « Ah ben non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire. » Et c'est vraiment dans ces moments-là que j'ai un déclic en général et que je comprends vraiment une erreur que je faisais avant. Donc finalement, ça peut être quelque chose de positif de faire des erreurs. Ça permet de bien mémoriser quelque chose et de progresser ensuite. Alors, toujours sur ce thème de parler, il y a un aspect qui peut faire peur, c'est l'accent. Alors déjà, toi, comment est-ce que tu fais pour travailler ton accent, pour te rapprocher le plus possible de l'accent français? Et puis finalement, est-ce que c'est vraiment important l'accent en fait? Qu'est-ce que tu en penses?
Je pense que pour moi, c'était un peu plus facile pour moi parce que quand j'étais petit, quand j'avais 9 ans, j'ai vécu 6 mois à Paris. Donc, j'ai commencé à apprendre le français quand j'étais petit. Et ça, je pense que c'est probablement plus facile d'apprendre apprendre les accents quand on est petit. Mais je pense que c'est pas trop grave. Si on fait des erreurs sur l'accent, c'est pas trop grave. Presque tout le monde comprenne quand même. Mais je pense aussi que pour améliorer son accent, c'est important d'avoir de parler avec des personnes françaises. En fait, ça c'est la seule moyen pour comprendre que je fais une faute là. J'ai trouvé quelque chose comme comment je prononce le i. Ça m'est arrivé vraiment récemment. Il faut toujours écouter et prendre des conseils sur son accent. Mais c'est pas trop grave si on prononce quelque chose un peu mal. C'est pas la fin du monde, quoi.
Oui, c'est vrai, quelque chose qui fait peur avec la prononciation du français, c'est la prononciation de la lettre R. Je dis souvent à mes élèves de ne pas trop s'inquiéter. Évidemment, on s'entraîne, on essaie de bien prononcer cette lettre, mais c'est pas très grave au final. Si on la prononce pas très bien, les gens vont quand même nous comprendre. Donc, il faut pas se bloquer, en fait. Il faut surtout pas se dire « j'arrive pas à prononcer cette lettre, donc je parle pas ». Surtout pas. Il faut s'entraîner Et plus on va parler, plus on va s'améliorer. Mmh. Et aussi, plus on va écouter des Français et plus on va réussir à améliorer son accent. Mmh. Et puis même si dans le pire des cas, on n'arrive vraiment pas à prononcer ce R, c'est pas catastrophique parce que les gens vont quand même nous comprendre. Alors, toujours dans ton apprentissage du français et dans les clés de ton succès, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui reste difficile pour toi en français aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un point où tu te dis « Oh là là, ça vraiment, je n'y arriverai pas, c'est trop difficile. »
Il y a beaucoup de choses en fait, mais je pense que je me trompe souvent sur si un mot est féminin ou masculin. Et ça arrive, ça c'est toujours un peu difficile, je pense. Ça et aussi, il y a des constructions qui sont vraiment peut-être différentes par rapport à comment je parle mes autres langues. Par exemple, les pronoms relatifs, ça c'est difficile pour moi. L'utilisation de « dont », la raison pour laquelle des choses comme ça c'est difficile pour moi. Et aussi, par exemple, en Suède, ou dans l'anglais, on n'a pas cet subjonctif. Ça, c'est vraiment différent pour nous, les Suédois aussi. Et donc, il y en a beaucoup de choses qui sont vraiment difficiles, mais c'est pas grave, il faut pratiquer, il faut essayer, quoi.
Ouais, c'est vrai. Le premier point, je suis tellement d'accord avec toi, enfin tous les points d'ailleurs, mais le premier point, c'est le plus frustrant, je pense. Le genre des noms, est-ce que c'est masculin ou féminin ? Parce que c'est tellement aléatoire. On peut pas vraiment le deviner. Alors, il y a quand même quelques astuces, hein. Si tu regardes la terminaison du mot, parfois tu peux deviner le genre. Par exemple, les mots qui se terminent par « sion » sont souvent féminins. Mais bon, il y a souvent beaucoup d'exceptions aussi. Donc, on est un peu obligé d'apprendre par cœur le genre. Et évidemment, c'est difficile. Et puis, c'est vrai que c'est quand même important, le genre du nom, parce qu'il y a beaucoup de mots qui vont changer en fonction du genre de ce nom. Comme par exemple les articles, les adjectifs. Donc c'est frustrant parce que ça part de quelque chose de complètement aléatoire et derrière, il y a beaucoup d'implications dans la phrase. Donc c'est vrai que ça reste pour beaucoup de personnes qui apprennent le français un peu leur cauchemar. Mais bon, en tout cas, même si vous vous trompez sur le genre d'un nom, on va quand même vous comprendre. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit un blocage.
Oui, et aussi, je pense que probablement c'est 70% de mots qui sont masculins. Donc, pour si on n'est pas sûr, utilisez le masculin. C'est mon conseil.
D'accord, c'est ton astuce. OK, merci de l'avoir partagé avec nous. OK, super. Est-ce que tu pourrais nous parler maintenant de ton expérience avec la France, avec les Français ? Donc, tu nous as dit tout à l'heure que tu aimais beaucoup voyager en France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes expériences ? Qu'est-ce que tu aimes bien faire, par exemple, quand tu vas en France ?
Comme je dis là, j'ai vécu à Paris quand j'étais petit. Et après ça, j'ai toujours aimé d'y aller, en fait. Et donc, j'aime vraiment Paris. Qu'est-ce que j'aime là? J'en ai pas sûr parce que c'est un peu comme pourquoi tu aimes une certaine musique ou quelque chose comme ça. C'est justement que c'est un endroit que j'aime vraiment, mais j'aime vraiment les petits cafés, les petits restaurants. Et balader aussi l'architecture, je pense, avec tous ces monuments, tous ces, avec les bâtiments qui sont un peu pareils, mais donc j'aime vraiment Paris avec tout la culture à Paris. Maintenant, oui, avec le coronavirus, je ne sais pas quand je peux. Je peux aller à Paris, Mais normalement, je visitais Paris peut-être un ou deux fois par an les dernières 5 ans, quelque chose comme ça. Et si je parle aussi un peu de la Provence, Antibes, pendant les dernières années, je suis y allé presque tous les étés, en fait. C'est vraiment agréable, c'est vraiment sympa aussi avec des montagnes, avec des petits villages dans les montagnes. Par exemple, il y a un village qui s'appelle Saint-Paul-de-Vence qui est vraiment très très sympa. Quoi faire, mais j'aime vraiment quand on arrive dans le sud de la France de justement louer une voiture, conduire dans ces paysages.
Oh, super! Tu me donnes envie là d'aller faire un road trip en Provence, près de la mer, dans ces petits villages. Tu nous fais rêver là. Ok, super! Donc Paris, la Provence. Et est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas, au contraire, quand tu vas en France?
Un truc que je n'aime pas, c'est les grèves. Ça m'énerve. Je ne comprends pas. Ah, s'il vous plaît, la France, s'il vous plaît, trouvez une solution pour ça, parce que ça ne sert à rien. Et ça, parce que, par exemple, en Suède, les syndicats sont très forts en Suède, mais les grèves sont très, très rares. On a trouvé des solutions pour comment faire sans utiliser les grèves tout le temps. Et les grèves, en France, les grèves frappent toujours les innocents. C'est toujours comme ça. Et ça m'énerve un peu. Mais à part de ça, il n'y a pas de grandes choses que je n'aime pas en France, il faut dire.
Bon, tant mieux. Super. Ouais, les grèves, c'est un grand sujet en France. Je crois qu'on est connu pour être les champions des grèves. C'est vrai que c'est dans notre culture de penser que nos ancêtres se sont battus pour obtenir certaines choses et que si aujourd'hui le gouvernement veut changer ces choses-là, alors on doit se battre aussi, comme nos ancêtres, pour conserver ces acquis sociaux. Et c'est vrai que malheureusement, on n'arrive pas aussi bien que vous en Suède à discuter, à trouver des compromis. Donc il y a souvent des grèves dans les transports, avec des gens qui ne peuvent pas aller travailler. Et ça crée des situations un peu compliquées dans la vie de tous les jours, c'est vrai. Ok, pour terminer sur cette partie, est-ce que tu as en tête peut-être des clichés sur la France et les Français, et qu'est-ce que tu en penses?
Oui, il y a des clichés sur les serveurs et que les Français ne sont pas vraiment polis, mais ça ne m'a vraiment pas arrivé, je pense, parce que je pense que si tu seulement dis bonjour, et si tu es poli, pour moi, c'est pas de problème.
En tout cas, pour ce cliché, c'est quelque chose qu'on entend souvent, que les serveurs, les chauffeurs de taxi ne sont pas très souriants. Je pense que c'est très intéressant ce que tu dis. Le simple fait de dire bonjour, c'est hyper important et ça peut complètement changer l'interaction que tu vas avoir avec la personne. Et si tu poses une question à un vendeur dans un magasin, il faut que tu lui dises bonjour, que tu lui laisses quelques secondes pour lever la tête, parce qu'il est peut-être occupé à faire autre chose. Et après, une fois qu'il te regarde, tu lui dis « excusez-moi » et tu lui poses ta question. Ouais. Et là, c'est vrai que ça change tout. Si tu l'abordes et que tu lui poses directement ta question sans introduction, il va peut-être être pas très agréable, c'est vrai. Ok, super. Alors, le mot de la fin maintenant. Est-ce que tu as un mot préféré en français ? Peut-être parce que tu aimes bien comment on le prononce ou alors tu l'aimes bien pour ce qu'il représente.
Oui, il y a des mots qui sont vraiment utiles pour peut-être ajouter une touche française comme « quoi » dans une phrase. comme en fait des mots comme ça, mais si je dirais une chose un peu plus poétique, je veux dire oui, choix de vivre, choix de vivre. Ça, je trouve ça beau. Par exemple, dans une phrase, je peux dire peut-être quand je parle de les boxeurs, c'est une race de chiens. Je peux dire que les boxeurs sont connus pour ne pas vieillir. Le boxeur est aussi un chien très joueur, plein d'énergie. Et c'est comme leur choix de vivre se comprimait dans leur vie courte. Je trouve ça beau.
Ah oui, c'est vrai. C'est une très jolie expression, la joie de vivre. J'aime beaucoup. Merci de l'avoir partagé. Ok, alors encore une fois, un énorme merci Henrik d'avoir participé à ce podcast, mon premier podcast interview. Je suis sûre que tous tes conseils vont être très utiles aux personnes qui apprennent le français et qui nous écoutent. Donc, merci beaucoup. Et je te dis à très bientôt. Ouais,
merci beaucoup. Au revoir.
Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous aussi vous avez envie de participer à ce podcast, comme Henrik, pour nous parler de votre expérience avec l'apprentissage du français, n'hésitez pas à m'écrire et je serai ravie de discuter avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la transcription de cet épisode sur mon site, avec une liste de vocabulaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Tous les jours, je vous donne une nouvelle pièce de puzzle pour mieux comprendre la culture et la langue française. Allez, à bientôt les amis !